On est à côté de la frontière érythréenne. Ici, c'est l'Éthiopie, un peu plus loin, c'est l'Érythrée. Tous ces gens font partie d'un seul et même peuple. Ils ont été séparés pendant 20 ans à cause des problèmes politiques. Mais aujourd'hui, on est heureux de pouvoir se retrouver et nous inviter les uns les autres.
Ce vieil homme ne pensait sûrement pas assister de son vivant à la réconciliation entre l'Éthiopie et l'Érythrée. Pendant 20 ans, les deux nations ennemies se sont fait face. Leurs longues frontières communes étaient fermées et des milliers de militaires déployés de part et d'autre. Le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée a débuté en 1998 à cause de quelques centaines de kilomètres carrés de désert que les deux pays se disputaient. Il a duré 2 ans et provoqué la mort de près de 80 000 personnes. Un premier accord de paix est signé en 2000, mais n'est jamais appliqué. Il a fallu attendre le 9 juillet 2018, soit 20 ans plus tard, pour que l'Érythrée et l'Éthiopie paraphent un accord pour la paix et la réconciliation. Depuis, l'Érythrée n'a pas vraiment bougé et reste une dictature. L'Éthiopie, en revanche, est en pleine mutation grâce au nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed, arrivé au pouvoir au printemps dernier.
C'est un miracle. Cela va au-delà de nos espoirs. Il a libéré tous les prisonniers politiques. Il a libéralisé la vie politique. Il a fait un boulot fantastique.
Cette libéralisation politique s'accompagne d'une ouverture de l'économie. L'Éthiopie facilite et encourage les investissements étrangers, alors qu'elle avait jusqu'à présent une économie très centralisée avec un État interventionniste. Le taux de croissance atteint les 8%, mais il ne peut masquer les immenses défis que devra surmonter l'Éthiopie, en particulier la grande pauvreté de sa population et les divisions ethniques. Et l'Éthiopie s'éveilla, c'est un reportage de Valérie Crova, Emeline Wilberg et Marcos Daras.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
Nous sommes au poste frontière de Zalambessa, au nord de l'Éthiopie. C'est le premier poste frontière qui a rouvert en septembre dernier. Il n'y a pas de drapeau, mais un muret de pierre qui délimite la frontière entre les deux pays. Des hommes nous invitent à les rejoindre sous une tente. Ils boivent de la bière locale qu'on appelle la tela. C'est une bière très amère. Et puis tout d'un coup, on voit arriver des femmes drapées dans leur chama. Ce sont de longues écharpes blanches. Ces femmes viennent de franchir la frontière à pied pour retrouver un jeune couple qui s'est marié la veille. Vous êtes éthiopien et vous êtes érythréenne?
Je suis érythréen, elle est éthiopienne.
Où est-ce que vous êtes rencontrés? Where did you meet?
Bissedrana.
Grâce à nos parents.
Are you going to live in Ethiopia or are you going to?
Et vous allez vivre où?
Dans les deux pays.
But the border is
Mais la frontière est fermée.
On est bien passé une fois et elle sera rouverte bientôt.
Mais quand?
On n'en sait rien. On a juste demandé une autorisation pour repasser.
Et vos enfants, ils seront érythréens, éthiopiens ou les deux?
Les deux.
Il La petite ville de Zalambessa est en pleine renaissance depuis la réouverture récente de la frontière érythréenne. Nous rencontrons l'un de ses habitants. Il a les cheveux grisonnants et un grand sourire sur les lèvres.
Je m'appelle Tsegay Agos. Ça fait 37 ans que je vis à Zalambessa. J'étais soldat sous Mengistu, le dictateur. Ensuite, j'ai été embauché dans une clinique. Maintenant, je suis à la retraite et je travaille dans un moulin pour subvenir aux besoins de ma famille.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer où on est ? On est très très près de la frontière érythréenne.
Oui, on est à côté de la frontière érythréenne. Ici, c'est l'Éthiopie, un peu plus loin, c'est l'Érythrée. Tous ces gens font partie d'un seul et même peuple. Ils ont été séparés pendant 20 ans à cause des problèmes politiques. Mais aujourd'hui, on est heureux de pouvoir se retrouver et nous inviter les uns les autres. Quand il y a eu la cérémonie de mariage, beaucoup d'Érythréens étaient invités. Maintenant, c'est la paix. On ne peut pas circuler entre nos deux pays en voiture, mais on peut y aller à pied. Il n'y a pas de problème. Tu vois cet homme ? C'est un soldat érythréen. C'est la paix aujourd'hui entre nous. Les 20 dernières années nous ont fait beaucoup, beaucoup de mal. Nous ne voulions pas qu'il y ait le moindre conflit entre nous. Les Érythréens non plus ne le voulaient pas. On sait à quel point cela nous a fait souffrir. Parce que nous sommes frères, nous avons les mêmes gènes.
La frontière où nous nous trouvons maintenant, vous la connaissez très bien, puisque vous habitez à côté. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'était avant que la frontière ne rouvre ?
Bien, il y avait des soldats partout. Je ne sais pas combien il y en avait, mais il y en avait partout ici en Éthiopie. D'après ce qu'on nous a dit, il y en avait aussi beaucoup en Érythrée. Ils gardaient la frontière.
Est-ce que vous entendiez parfois des tirs ?
On entendait des tirs très souvent, jusqu'à ce que la paix soit annoncée. Avant, les gens et les animaux pouvaient être blessés ou tués des deux côtés. On ne sait pas combien de personnes ou d'animaux ont été tués par les balles éthiopiennes en Érythrée, mais ça arrivait souvent.
Félicitations, monsieur Abiy.
Isaias Afwerki, président de l'Érythrée, 8 juillet 2018.
Nous sommes ensemble pour ce voyage. Nous ferons face à des défis et créerons des opportunités ensemble. Et nous réussirons. Félicitations surtout au peuple d'Éthiopie et d'Érythrée.
Addis Abeba est à l'image du pays en pleine transformation. La plus haute tour de la capitale est en construction. Devant le chantier, une palissade vante un consortium chinois qui finance la construction de la Number One, comme la surnomment très fièrement les habitants d'Addis. Là, on vient rencontrer Abel Wabella, c'est l'un des fondateurs de la plateforme Zone 9. C'est une plateforme de blogueurs qui a été créée en 2012, qui était très très critique à l'égard du pouvoir en place. Depuis, Abel Wabella a décidé de lancer son propre journal en ligne. On attend maintenant de le rencontrer.
Hello.
Hello.
Welcome to our office.
Nice to meet you.
Nice to meet you too. Now you are in
Nous sommes dans l'agence Seba Dereja Media et Communication. C'est une entreprise privée qui publie le journal Addis Zebe.
Vous avez quel âge, Abel ?
J'ai 31 ans.
Quand est-ce que vous avez fait de la prison ?
J'ai été arrêté le 25 avril 2014. J'ai été emprisonné pendant un an et demi.
Qu'est-ce qu'on vous a reproché ? Vous dites on nous accusait de terrorisme, mais au fond, on vous reprochait d'être critique à l'égard de l'ancien gouvernement ?
Définitivement, parce qu'ils savaient que nous n'avions aucun lien avec des organisations hors la loi. Ils voulaient nous réduire au silence parce qu'il y avait une élection l'année suivante. Ils voulaient faire taire les voix dissidentes sur les réseaux sociaux. Nous étions très connus sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont venus nous chercher.
Ça a été difficile en prison ?
C'était vraiment difficile. Nous avons passé les trois premiers mois dans le centre de détention de Maekelawi. C'est une chambre de torture tristement célèbre. Nous étions enfermés toute la journée. Les portes étaient verrouillées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils nous permettaient d'aller aux toilettes 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, et nous n'avions pas le droit de communiquer avec nos familles ou nos avocats. Et on nous appelait après minuit pour des interrogatoires. Certains détenus étaient torturés, y compris nous. C'était vraiment horrible.
Prestation de serment d'Abiy Ahmed devant le Parlement éthiopien. 2 avril 2018.
L'Éthiopie, depuis un an bientôt, a totalement changé. Il y a eu un énorme bouleversement dans la vie de tous les Éthiopiens, certainement dans la vôtre aussi, depuis que M. Abiy Ahmed est arrivé.
C'est un miracle. Cela va au-delà de nos espoirs. Quand il a fait sa première apparition au Parlement, il a demandé pardon aux gens comme nous qui se sont fait torturer, emprisonner ou qui ont dû choisir l'exil. Il a expliqué ce qu'il allait faire. Il a donné sa feuille de route pour changer le pays. Il y avait des incertitudes parce qu'il faisait partie du système. Il a servi le régime pendant ces 20 dernières années. Les gens n'y croyaient pas au début. Mais quand j'ai entendu son discours au Parlement, je l'ai soutenu à 100%. Après, ce qu'il a fait, c'est merveilleux. Il a libéré tous les prisonniers politiques, il a libéralisé la vie politique. Toutes les organisations politiques qui étaient hors la loi et qui s'étaient exilées en Érythrée sont rentrées. Il a réussi à faire la paix avec l'Érythrée. Il a fait un boulot fantastique.
Est-ce que vous critiquez M. Abiy Ahmed dans votre journal ?
Oui, je le fais car c'est bien pour la nation. Par exemple, il était au Parlement ce matin. Il a dit aux députés, on n'a pas besoin que les médias nous encensent. Les médias doivent nous critiquer quand on commet des erreurs. J'ai écrit beaucoup d'articles critiques, notamment à propos de certaines nominations. J'approuve globalement sa politique, mais j'ai exprimé mon désaccord sur des problèmes bien précis.
Merci beaucoup. Merci.
Perception sur France Inter.
On vient d'arriver au café Chaka. Nous sommes dans le quartier Chichina. Chichina, ça veut dire Tchétchénie. Et on a rendez-vous avec Atnaf Berhane, qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous devez connaître Abel, que nous avons rencontré tout à l'heure.
Yeah, Abel Wabala is my friend and my.
Oui, c'est un ami, mon collègue.
And we went.
Nous sommes allés en prison ensemble. On a été accusés de terrorisme.
On a l'impression que depuis le mois d'avril 2018, depuis l'arrivée au pouvoir d'Abiy Ahmed, que il y a pratiquement plus de gros problèmes en Éthiopie. Est-ce que c'est vrai?
Fearing of
La peur d'être à nouveau arrêté ou intimidé par les services de sécurité, aujourd'hui je ne la ressens plus. Je suis relativement libre. Je peux m'exprimer librement, même si j'avais l'habitude de dire ce que je voulais, mais au prix d'une arrestation. Il y a beaucoup de changements que nous pouvons mentionner. Par exemple, le gouvernement avait l'habitude de cibler des défenseurs des droits de l'homme et des journalistes. Il s'appuyait sur des lois antiterroristes et la loi sur les médias. Le gouvernement est en train de réviser ces lois et d'ouvrir l'espace politique.
Comment vous qualifieriez-vous le Premier ministre ? C'est un réformateur ? C'est un avant-gardiste ? C'est un moderniste ? C'est un révolutionnaire ?
Ce n'est pas un révolutionnaire, mais un réformateur. Il a fait un travail remarquable ces 10 derniers mois. La paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée, c'est remarquable.
Le peuple éthiopien, qu'est-ce qu'il espère de la politique mise en place par le Premier ministre Abiy Ahmed ?
Les gens sont très optimistes en ce moment. Même s'il y a des conflits dans certaines zones du pays, pour la première fois dans l'histoire de l'Éthiopie, le dirigeant est de l'ethnie Oromo. Et il est accepté par des non-Oromo. Au moins, il y a un consensus là-dessus. Le Premier ministre, Abiy Ahmed, parle beaucoup de l'unité du pays. Et c'est pour cela que les Éthiopiens, qui ne sont pas Oromo, le soutiennent. L'unité, c'est ce que le peuple veut.
Je m'appelle Binyam Abate. Je suis le directeur du Conseil éthiopien des droits de l'homme.
En quoi consistait l'état d'urgence exactement ?
Pendant des années, même avant l'état d'urgence, plus de 200 sites internet et blogs étaient bloqués. Pendant l'état d'urgence, les choses principales qui étaient interdites étaient les manifestations publiques et les réunions. Par exemple, en tant qu'organisation de la société civile, nous organisions une réunion annuelle avec nos partenaires. Même cela, c'était interdit. Nous devions consulter les militaires pour organiser un tel événement. Nos opérations de levée de fonds étaient aussi interdites. Et nous ne pouvions pas publier nos rapports annuels parce que le gouvernement considérait que cela violait l'état d'urgence.
Durant ces années où l'état d'urgence a été instauré, est-ce que on a une idée du nombre de personnes qui ont été emprisonnées et privées de leurs droits ?
Plus de 20 000 personnes ont été arrêtées sous l'état d'urgence. Elles ont toutes été libérées.
Derrière nous, il y a une carte de la liberté dans le monde. Il y a trois couleurs qui correspondent à trois niveaux de liberté. La couleur jaune, c'est pour les pays où la liberté est partielle. La couleur verte, c'est la liberté totale, et la couleur violette, il n'y a pas du tout de liberté. Et en 2017, on voit que l'Éthiopie fait partie de ces pays en violet. Est-ce que ça a changé depuis ?
Definitely, changed from the government point of view. The government is letting.
Du point de vue du gouvernement, le peuple est désormais libre. Par exemple, plus de 200 sites, internet et blogs qui étaient bloqués sont à nouveau accessibles. Et la presse est plus libre aujourd'hui. Donc définitivement, nous ne sommes pas au même stade que l'an dernier. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour être totalement libre. Il y a beaucoup de conflits dans diverses parties du pays qui coûtent la vie à des innocents.
On vient d'arriver à Meskel Square. Meskel, ça veut dire la croix en amharique. C'est ici, sur cette place, que les Éthiopiens célèbrent fin septembre la fête de la croix. celle où le Christ a été crucifié. Il faut savoir que les Éthiopiens sont très croyants. Et c'est aussi un lieu de rencontre pour les habitants d'Addis, un lieu d'entraînement aussi pour les sportifs. Il y a d'ailleurs des hommes qui font leur footing au milieu des travées. Et c'est là que nous avons donné rendez-vous au frère de Feissa Lilesa, ce marathonien médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Rio.
Lui aussi aura marqué ces Jeux Olympiques par son courage à l'arrivée du marathon. Hier à Rio, l'Éthiopien Feissa Lilesa a croisé ses poings au niveau de sa tête. Un geste en soutien aux manifestants qui sont tués par le gouvernement de son pays, a-t-il expliqué. Ils font le même signe là-bas, le gouvernement tue mon peuple, les Oromos. Peut-être que je vais être tué, peut-être que je vais être mis en prison ou obligé de partir dans un autre pays.
Bonjour Adonia.
Hi.
Nice to meet you. Ravi de vous rencontrer.
Me too.
Est-ce que on peut vous montrer la vidéo de votre frère et pour que vous nous la commentiez?
Voilà, c'est parti donc pour cette dernière épreuve de ces Jeux Olympiques de Rio, le marathon donc qui reste une épreuve évidemment à part, totalement à part.
Ça c'est votre frère qui est en train de courir, c'est le dernier kilomètre?
C'est autour du 41e kilomètre, le dernier kilomètre. À ce moment précis, on était très inquiets.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi il a décidé de faire ce geste avec ses bras sur sa tête?
Pendant les manifestations de 2015 et 2016, beaucoup d'Éthiopiens sont morts. Nous n'avions aucun droit, on ne pouvait pas parler. On était vraiment sous pression. Donc il a fait ce geste. Et si tu faisais cela, le gouvernement ne le tolérait pas. S'il était rentré ici, peut-être qu'il l'aurait tué. Oui, risqué pour lui. Mais pas seulement pour lui, pour toute sa famille. Après qu'il a fait ce geste, j'ai quitté le pays pendant quelques mois. Je suis allé aux USA.
Et qu'est-ce que fait maintenant Feissa?
Il vit aux États-Unis, dans l'État de l'Arizona. Il s'entraîne en ce moment.
Parce qu'en Arizona, c'est le meilleur endroit pour s'entraîner quand on vient d'Éthiopie.
Oui, c'est un bon endroit. C'est comme en Éthiopie. C'est en haute altitude, à plus de 2000 mètres d'altitude.
Et vous, vous vous entraînez? Vous faites du marathon aussi?
Non, pas au marathon. Je fais du 10, du 15 km, du semi-marathon. J'essaierai le marathon l'année prochaine.
Si la libéralisation politique de l'Éthiopie est récente, l'ouverture économique remonte à quelques années déjà. Depuis le début des années 2000, le pays se convertit timidement à l'économie de marché. Au printemps dernier, le Premier ministre a ouvert le capital des grandes entreprises publiques au secteur privé. Le gouvernement multiplie aussi la construction de parcs industriels, comme celui qu'a visité Valérie Crova.
France Inter, Interception, le magazine de reportage de la rédaction.
À une demi-heure d'Addis, le parc industriel de Bolelemi s'étend sur plusieurs hectares. C'est le premier parc industriel d'Éthiopie qui en compte aujourd'hui plus d'une dizaine répartis sur tout le territoire. Des cars déversent tous les matins un flot d'ouvriers et d'ouvrières qui travaillent ici sur ce site. Et nous sommes devant le hangar numéro 7 qui abrite JJ Textile. C'est une entreprise indienne qui confectionne des vêtements pour bébés et qui travaille pour plusieurs grandes marques, notamment suédoises. Nous arrêtons une jeune fille toute timide qui s'apprête à pointer avant de partir chez elle. Vous appelez comment? Vous avez quel âge?
20 ans.
Depuis combien de temps vous travaillez ici?
Un an.
Qu'est-ce que vous faites?
Label tag.
Je couds des étiquettes.
Est-ce que les conditions de travail sont bonnes?
Oui, ça va. Je travaille dans de bonnes conditions.
On peut vous demander combien vous gagnez par mois?
Mon salaire est de 1650 birres éthiopiens.
1650 birres, ça fait une cinquantaine d'euros, à peu près.
Est-ce que vous habitez chez vous ou est-ce que vous habitez encore chez vos parents?
Oui, je vis seule.
Et avec 1600 birs, c'est suffisant pour payer un appartement, s'acheter à manger?
Je paie 700 birs pour la maison et le reste, je l'utilise pour manger et pour les choses nécessaires. Donc tout l'argent que je gagne, je l'utilise pour le quotidien.
Pour l'heure, le secteur industriel représente moins de 20% du PIB de l'Éthiopie. L'agriculture reste le moteur de l'économie éthiopienne. S'il est un secteur florissant, c'est bien celui du café, principale culture d'exportation du pays. Il assure un revenu à 15 millions de personnes. Cultivé en altitude, son goût et son arôme le rendent unique, tout comme l'odeur qui flotte un peu partout dans les rues d'Addis, une ville qui est pourtant très polluée. Nous avons rendez-vous avec Brooke Fikrou dans un petit restaurant du quartier de Bolé où une jeune femme nous sert du café dans des petites tasses.
My name is Brooke Fikrou.
Je représente Volcafé, une entreprise suisse qui vend du café. Nous sommes présents en Éthiopie depuis 50 ans et nous sommes les premiers acheteurs de café vert en Éthiopie.
Est-ce que l'arrivée d'Abiy Ahmed encourage le commerce, pas que dans votre parti, de façon globale ou plus générale ?
L'intention du gouvernement est d'encourager le commerce et d'encourager la participation du secteur privé à l'économie. Il y a des discussions autour des réformes à venir. Dans le secteur du café, les réformes ont débuté il y a 2 ans, avec le rétablissement de l'autorité éthiopienne du thé et du café. Si les réformes continuent ainsi, j'ai l'espoir qu'il y aura bientôt plus d'acteurs dans le business du café, et notamment plus de producteurs.
Vous utilisez quel port pour exporter le café éthiopien ?
Le port de Djibouti est celui que nous utilisons pour exporter le café dans le reste du monde. Mais grâce au rapprochement entre l'Érythrée et l'Éthiopie, l'Éthiopie va pouvoir utiliser à nouveau les ports d'Assab et Massawa en Érythrée pour exporter son café. On exporte aussi notre café par la route via le Soudan. Mais ces 20 dernières années, c'est surtout le port de Djibouti que nous avons utilisé. Et nous, les acheteurs, nous payons jusqu'à présent le prix du transport, c'est le système du freight on board.
Le fait d'utiliser le port d'Assab, par exemple, qui est une nouvelle option, est-ce que ça va vous coûter moins cher pour exporter vos produits et votre café ?
Pour l'Éthiopie, avoir accès à un port alternatif va vraiment rendre le commerce international moins cher. Les coûts logistiques vont baisser. Et nous espérons que ce sera le cas aussi pour les exportations de café.
Et est-ce que du coup, cela peut attirer d'autres investisseurs, d'autres entreprises qui pourraient être intéressées du fait que les coûts vont être réduits?
Quand ils veulent investir dans un pays comme l'Éthiopie, les investisseurs regardent d'abord s'il y a des usines. Mais c'est vrai que si la logistique devient plus efficace et moderne et s'il y a un accès plus simple à la mer, les investisseurs injecteront leurs capitaux plus facilement en Éthiopie.
Le quartier de Bolé où nous nous trouvons, c'est le quartier d'affaires d'Addis Abeba. C'est un quartier un peu chic aussi. Et ce matin, nous avons rendez-vous avec Florian et Marcos. Ils ont créé le premier incubateur de start-up éthiopienne.
My name is Florian.
Mon nom est Florian. Je travaille en Éthiopie depuis presque 7 ans, depuis 2012. Je suis le cofondateur de Ice Addis. Vous imaginez bien qu'en 2012, on ne parlait pas aussi librement de startups et d'entrepreneuriat. L'environnement politique était bien différent.
Depuis 2012, depuis que vous êtes arrivé, Il y a eu une ouverture économique importante qui s'est opérée en Éthiopie. Est-ce que ça vous a permis de développer vos activités ?
L'Éthiopie n'est pas allée aussi loin qu'on pouvait le penser, mais elle va dans la bonne direction. Et cela a commencé d'ailleurs sous les précédents gouvernements. Ce qui a changé avec le nouveau Premier ministre, c'est qu'il y a plus de promesses d'ouverture à la concurrence des différents secteurs de l'économie, des promesses d'accueillir plus favorablement les investisseurs étrangers, même si, pour être honnête, c'était déjà prévu par le précédent gouvernement. Ce qui s'est vraiment amélioré, ce sont les compétences en communication du nouveau gouvernement. Le plus gros défi, en fait, ce sont les investisseurs privés. C'est très dur d'en trouver quand on est une petite entreprise. Quand on travaille dans une start-up, on cherche en général des investisseurs à hauteur de 30,000-50,000 $. C'est le montant qu'une start-up débutante peut absorber. Mais un tel investissement n'est pas autorisé ici par la réglementation. Et la réglementation n'a pas changé. Le seuil minimum pour investir dans le pays est de $150,000. C'est beaucoup trop pour une start-up qui vient juste de tester son produit et qui n'a pas encore de retour du marché. On verra bien comment tout cela va évoluer.
On a un peu l'impression que c'est à l'image de l'Afrique, à savoir que les startups, ça reste quand même un domaine embryonnaire. C'est-à-dire que pour l'instant, vous en êtes qu'au tout début et que peut-être que dans 10 ans, ça va exploser.
Bien sûr, ce n'est que le début. L'entrepreneuriat éthiopien est l'un des plus jeunes du continent. L'autre gros défi de ce pays, c'est la compagnie Ethio Telecom. Je suis désolé de vous dire ça, mais ils ne sont pas performants. Même avec leur nouvelle direction, qui va dans le bon sens et qui travaille dur, qui étend le réseau jusque dans des zones reculées. Malgré tout ça, leur fiabilité est un problème majeur. Si je veux parler avec quelqu'un sur Skype, en dehors du pays, j'ai 50% de chance que l'appel ne passe pas. C'est assez décourageant. Même passer un simple coup de fil peut être difficile, car le réseau est encombré. Ça ralentit beaucoup de choses. Cela n'aide pas les entreprises à se développer, que ce soit les entreprises du secteur technologique ou toutes les autres. C'est difficile de grandir dans ces conditions.
Je m'appelle Bernard Poulet. Je suis aujourd'hui directeur des filiales du groupe Castel en Éthiopie. Ces filiales concernent l'activité bière à travers 5 brasseries réparties sur l'ensemble du pays et une activité vin qui est concentré sur un site dans le sud d'Addis Abeba. Je suis ici depuis 7 ans.
En 7 ans, vous avez vu l'Éthiopie se transformer, j'imagine.
En 2012, quand j'arrive en Éthiopie, effectivement, c'est un pays qui est décrit à l'époque comme Eldorado et qui, effectivement, a connu une croissance au cours, on va dire, des 10 dernières années à 2 chiffres. Au début des années 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, et depuis un peu un ralentissement, plutôt autour, si on croit le FMI, de 7,5 à 8,5%. Mais ça reste des taux quand même qui sont très importants. La croissance, bon, elle résout des problèmes, elle accroît le niveau de vie, elle permet des progrès, mais elle crée aussi des problèmes. Et notamment, le problème le plus criant, le plus visible aujourd'hui, c'est la pénurie de devises. C'est-à-dire qu'on a une économie qui ne fait exporter que des matières premières, du café, des produits agricoles. Et effectivement, la croissance, elle a été aussi industrielle. Elle a donc engendré une demande d'importation très forte. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en gros, hein, l'Éthiopie exporte les 3 milliards qu'elle exportait aussi il y a 10 ans, de café, de sésame, de produits oléagineux. Par contre, elle importe 16 à 17 milliards de dollars. Alors qu'à l'époque, elle en importait 5 à 6. Donc le gap s'est creusé, et aujourd'hui, ce gap devient dramatique un peu. Et ce qui fait que c'est un facteur qui ralentit un peu la croissance, qui ralentit d'abord l'arrivée de nouveaux investisseurs qui se méfient un peu. Et puis même ceux qui existent aujourd'hui, je connais beaucoup d'industriels qui ne travaillent pas à leur capacité parce qu'ils n'ont pas les devises pour importer ne serait-ce que les matières premières ou des pièces détachées pour réparer leurs équipements.
Le développement économique de l'Éthiopie, il est financé en grande partie par la Chine, avec des prêts absolument colossaux.
Alors oui, c'est un endettement, mais je dirais un endettement, je mets des guillemets, assez sain, c'est un endettement d'investissement. C'est-à-dire, c'est un pays, il suffit de se promener dans Addis, voir un peu toutes les infrastructures, tous les bâtiments qui sortent du ciel, il y a beaucoup de choses qui se font et qui participent du développement. C'est pas un endettement pour payer les dépenses courantes de l'État. Ben alors maintenant, est-ce que l'État investit bien? Est-ce que l'État, dans ses projets, parce que cet État, il a quand même, une culture très dirigiste, et donc il a l'air de considérer que l'économie, c'est lui qui la décrète, même s'il tolère à côté de lui un secteur privé, il considère que c'est lui le moteur, c'est lui de l'économie. Et donc il s'est engagé dans des projets un peu pharaoniques, qui ont du mal à déboucher. Hein. Le barrage qui devait être inauguré en 2017.
Le barrage sur le Nil,
bon là on parle de 2025. Donc ils se sont mis, les parcs industriels qui sont un peu des modèles soviétiques un peu, hein, c'est-à-dire qu'on crée des parcs pour faire du textile et on dit on va exporter, on décrète qu'on va exporter $1 milliard cette année. Aujourd'hui, tous les parcs industriels compris, ils ont exporté $80 millions. Donc il y a un volontarisme de l'État qui fait partie de la culture éthiopienne, qui fait partie de son histoire, hein, aussi bien sous l'Empire que le DERG communiste. Mais il y a cette espèce de volontarisme qui se heurte aujourd'hui à la réalité. Alors c'est vrai que le nouveau gouvernement et le Premier ministre en tête a pris ça en compte et a pris un tournant libéral, hein, puisqu'il parle de privatiser certains fleurons. À l'époque, même prononcer le mot, ça aurait été passible d'une peine de prison. Mais là, aujourd'hui, ils acceptent l'idée de privatiser en partie Ethiopian Airlines, l'électricité. Mais on est quand même loin encore d'une économie qui a trouvé ses assises et tout ça.
On lit dans les articles que l'Éthiopie est la Chine de l'Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ?
C'est une image. Alors, souvent, le gouvernement, comme c'est un gouvernement issu un peu de l'idéologie communiste, on a tout de suite pensé à Deng Xiaoping et la suite en disant, voilà, c'est des communistes sur le plan politique, mais libéraux sur le plan économique. Bon, ça s'arrête là, je crois, parce que bon, la Chine a une autre histoire, d'autres capacités, d'autres moyens. Si vous voulez, l'Éthiopie à l'époque, je crois que le modèle, c'était moins la Chine à l'époque, c'était l'Albanie. C'est un pays autarcique. Et même à l'époque de l'empereur, hein, sans parler d'idéologie communiste ou pas, c'est un pays autarcique. Les gens sont très... ils sont difficiles, hein, c'est pas l'Africain de l'Ouest ou l'Africain de l'Afrique centrale. Hein. Donc on dit qu'ils ont une très forte personnalité, sont très orgueilleux. Et souvent ils disent qu'ils ont le seul pays qui n'a jamais été colonisé, ils en sont fiers, bon, à juste raison. Mais ça leur donne un caractère assez particulier, et c'est pas des gens qu'on bouge très facilement et tout. On voit dans les événements politiques, c'est dur, quoi. C'est-à-dire, c'est des durs. Alors, le côté rural, le côté Albanie, enfin autarcique, tout ça fait que c'est pas des gens toujours simples.
France Inter, Interception.
Outre l'ouverture économique, l'autre grand défi de l'Éthiopie est l'unité de son territoire.
Les habitants de Gamo et d'Amara sont attaqués et jetés dans les bois. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin de justice. Je suis venu demander justice, car nos frères et sœurs se font massacrer. Ils violent nos sœurs et nos mères.
Les affrontements entre ethnies se multiplient ces derniers mois et inquiètent les ONG.
Je m'appelle Julien Lérisson, je suis chef de délégation du Comité international de la Croix-Rouge, ici en Éthiopie. L'Éthiopie est une république fédérale basée sur des régions et des régions à fort composant ethnique. Et c'est vrai que cette identité ethnique très forte crée un certain malaise aujourd'hui et un repli identitaire. et que c'est les différentes communautés concernées, là où il pouvait y avoir dans le passé un certain mélange, on assiste aujourd'hui à ce repli et ce retour où des gens qui pouvaient vivre, je prendrai l'exemple de Somalie, ou qui vivaient en Somalie depuis des dizaines et des dizaines d'années, voire plus, se retrouvent aujourd'hui chassés et obligés de retourner dans une région où leur ethnie est majoritaire, mais où eux, personnellement, n'ont pas forcément de racines. C'est un vrai problème, les autorités essaient de l'adresser. Nous essayons d'amener notre pierre à l'édifice. Mais oui, je pense qu'on peut effectivement parler de problèmes d'origine foncier, d'origine identitaire, ethnique, tribale, dans une certaine mesure. Et puis après, évidemment, avec toute une influence politique et d'autres enjeux derrière.
Les chiffres que donne l'ONU sont très importants. On parle de plus de 2 millions de déplacés.
Oui, 3 millions de déplacés, c'est les derniers chiffres de la semaine dernière, dont les deux tiers, donc 2 millions, sur des conflits, des violences interethniques. C'est massif, on ne se rend pas compte. 3 millions de personnes, si je ne me trompe pas, Paris intramuros, c'est 1,5 million, quelque chose comme ça. Donc c'est deux fois Paris. C'est des gens qui fuient la violence, donc qui fuient dans la précipitation, qui n'ont pas le temps d'emmener leurs affaires et leurs biens. Et donc, c'est des gens qui sont extrêmement vulnérables et qui ont besoin d'assistance. Donc, les besoins sont énormes. L'Éthiopie, il y a ce paradoxe d'une ouverture à l'international, d'un nouveau Premier ministre jeune, dynamique, très très populaire, d'une volonté de faire avancer le pays, de l'ancrer clairement dans le 21e siècle. Beaucoup de projets de développement, une croissance économique très intéressante, beaucoup d'investisseurs. Et en même temps, ces conflits et 3 millions de déplacés, 1 million de réfugiés, des besoins énormes. Donc c'est vrai qu'il y a un espèce de paradoxe entre ces données-là.
Ces conflits intercommunautaires, c'est un vrai défi que va devoir relever le docteur Abiy Ahmed ?
Bien sûr, c'est un défi, un vrai défi à relever. Je pense qu'il y a une volonté, en tout cas, une volonté politique. Essayons de soutenir là où on le peut les bonnes volontés et ce souffle important de la population éthiopienne qui veut du changement et qui veut plus de stabilité.
Je m'appelle Asnak Kefale, je suis professeur de sciences politiques à l'université d'Addis Abeba.
On dit que M. Abiy Ahmed est un homme qui est issu du système.
C'est en partie vrai, parce qu'il vient du système, mais il est en même temps difficile de dire qu'il travaille pour le système. Les réformes qui sont actuellement entreprises dans le pays vont au-delà d'une réforme institutionnelle, une réforme au sein de la coalition au pouvoir. Certaines réformes peuvent même ébranler la nature même du parti, son organisation, son idéologie, parce que la coalition était une organisation très centralisée, très autocratique. Donc certaines réformes qui sont apportées depuis la nomination d'Abiy Ahmed sont en train d'entamer la tradition de l'organisation. Donc oui, il vient du système, mais il est aussi en train de changer le système.
Est-ce que ce n'est pas un problème que M. Ahmed n'ait pas été élu, mais désigné ?
Je pense qu'il est devenu plus populaire que nos leaders élus grâce à sa rhétorique, à sa politique. Depuis qu'il a été nommé Premier ministre, Abiy Ahmed a été capable de gagner beaucoup de soutien populaire, non seulement dans le pays, mais aussi de la part de la diaspora, des puissances occidentales. On ne sait pas combien de temps ça va durer, mais il est très populaire pour le moment.
Jusqu'au début des années 2000, les Éthiopiens cherchaient à tout prix à fuir les difficultés de leur pays. Qu'en est-il aujourd'hui ? Pour le savoir, nous sommes allés à l'université d'Addis Abeba, l'une des plus anciennes du continent africain, et nous croisons trois étudiants qui discutent dans le parc. Est-ce que vous espérez trouver un travail assez rapidement après votre sortie de l'université ?
Le gouvernement est en train de créer des opportunités dans le monde du travail. Donc nous nous attendons à trouver un emploi.
Quels sont vos rêves ?
Je voudrais construire des immeubles. C'est l'un des problèmes majeurs du pays. Et grâce à ma spécialisation, je peux aider mon pays.
Donc vous voulez tous rester ici en Éthiopie ? Vous ne voulez pas partir à l'étranger ?
En fait, je veux rester en Éthiopie parce que notre pays est en train de changer. Et d'autres pays vont venir investir en Éthiopie. Nous sommes un grand pays avec une grande histoire.
Merci beaucoup.
Thank you.
Masa bienalo.
Okay.
Welcome.
Le développement de l'économie éthiopienne attire les Occidentaux. Le président français Emmanuel Macron se rendra d'ailleurs à Addis Abeba les 14 et 15 mars prochains pour signer un partenariat stratégique. Et l'Éthiopie s'éveilla, c'était un reportage de Valérie Crova et Emeline Wilberg. Prise de son, Marcos Daras. Réalisation, Violaine Ballet, assistée de Stéphane Combe. Mixage, Julien Michel. À la semaine prochaine. Eremila, sigela gela nerku, Eremila, yanchi.